Introduction. Septembre 2012. Un mardi, aux alentours de 14h, j'ai rendez-vous avec Geneviève à son domicile dans le 8e arrondissement de Paris. C'est la première fois que je me rends dans ce quartier. Intimidée par l'immensité et la majesté des lieux, étonnée de la propreté des trottoirs, je suis amusée par les femmes qui semblent habillées comme leurs chiens, ou l'inverse, et par les hommes d'affaires qui dégustent leur toast au saumon fumé dans de belles brasseries en pleine semaine. Je suis en avance et m'interroge. Faut-il que j'offre quelque chose? Je ne me serais pas posé la question si j'avais rencontré Geneviève dans un café pour notre entretien d'embauche. Mais là, c'est différent. Ce rendez-vous chez elle me fait douter. J'entre dans une chocolaterie de luxe située tout près de l'immeuble où elle vit. Seule cliente devant les trois serveuses en costume qui me regardent en souriant, je n'ose pas ressortir de la boutique. J'achète sans réfléchir un ballotin de taille moyenne au prix déroutant, que je glisse furtivement dans mon sac, en veillant à ne pas froisser le petit sachet en papier glacé doré qui le contient. Je compte l'offrir à Geneviève pour la remercier de me recevoir chez elle pour un entretien. Mon rendez-vous est dans un quart d'heure. Trop tôt pour sonner, trop tard pour hésiter. J'attends donc au pied de l'immeuble, nerveuse. À 14h pile, je sonne. Trois portes à code et interphone doivent être franchies avant de parvenir à l'ascenseur qui me conduit au troisième étage. Tout est beau. Ce n'est pas vraiment à mon goût cette beauté-là, celle des choses anciennes, des choses chères. Quelques jours plus tôt, j'avais échangé par téléphone avec Catherine, la fille de Geneviève. Elle voulait que je rencontre sa mère, étant pour le moment en Chine avec son mari et ses deux enfants. Ils y vivent la moitié de l'année, mais Catherine recherche une nanny pour les enfants lorsqu'ils sont à Paris. Pour désigner les femmes qui gardent leurs enfants, beaucoup de grandes fortunes utilisent le terme de nanny, signe de leur internationalisation. Il est aussi une marque de distinction qui renvoie aux nannies britanniques très réputées. En substituant le terme « nanny » à « nounou » ou « babysitter », les grandes fortunes montrent qu'elles ne recrutent que des personnes de qualité. C'est donc Geneviève qui est chargée ce jour-là de voir si ça peut coller avec moi. L'ascenseur s'ouvre. J'arrive devant la porte de l'appartement. Je suis habillée tout en noir, et j'ai mis des perles blanches aux oreilles. Enfin, de fausses perles blanches, en plastique, mais qui paraissent vraies. Je ne souhaite commettre aucune faute de goût. Je sonne. À ce moment-là, j'ai envie de fuir. J'entends des petits pas pressés. Deux ou trois tours de clé dans la serrure, et deux verrous plus tard, la porte s'ouvre sur un rideau noir qu'une main écarte rapidement. Face à moi, une femme, petite, âgée d'une soixantaine d'années, habillée en gris et blanc. Je souris, lui dis bonjour et lui tends la main. Au lieu de la prendre, elle me regarde avec un visage neutre et me salue d'un petit hochement de tête. Je comprends que je dois la suivre. Elle me dit de m'installer sur le canapé d'un immense salon. J'attends une minute qui me semble une éternité. La femme qui m'a ouvert la porte revient avec un plateau et une tasse de thé. Elle la pose sur la table basse devant moi, et avant de pouvoir la remercier de m'accueillir chez elle pour un entretien, elle me dit « Madame arrive dans quelques instants. » Je comprends alors que la dame en face de moi n'est pas Geneviève, mais sa bonne. Les domestiques existent toujours. Sa bonne s'appelle Yelena. Polonaise âgée de la soixantaine, elle est la première bonne employée à temps plein que j'ai rencontrée en vrai. Auparavant, je n'en avais connu que dans les romans, comme la Célestine d'Octave Mirbeau, l'Adèle d'Émile Zola, la Grande Nanon de Balzac ou la Félicité de Flaubert. Les bonnes n'étaient pour moi que des personnages appartenant à un passé révolu, ou carrément fictif, produit du regard bourgeois et des fantasmes masculins que ces écrivains projetaient sur les femmes des classes populaires. lorsque j'ai pris conscience du fait que Yelena était la bonne de Geneviève, c'est tout un univers qui s'est ouvert à moi. Celui des domestiques des grandes fortunes, auxquels j'allais consacrer un travail de recherche doctorale. Les domestiques sont loin d'avoir disparu, et on les nomme encore ainsi, contrairement à ce qu'a pu affirmer un journaliste du Figaro, commentant en 2018 la mobilisation des Gilets jaunes. Cette pièce vestimentaire nous ramène également aux gilets des majordomes et des valets, des gens de maison, les domestiques, comme on les appelait jusqu'au milieu du XXe siècle. L'expression, plus guère en usage, est prohibée par la bienséance, pour la même raison que les pâtissiers ont dû remplacer leur tête de nègre par des meringues chocolatées. Le terme n'est plus à la mode, certes, dans le langage policé des institutions et des catégories statistiques. Pour désigner les services à domicile, il a été remplacé par aide au domicile, aide ménagère, travailleuse familiale, profession 563B de la nomenclature de l'INSEE, ou encore employé de maison et personnel de ménage, 563C. Cependant, il se trouve sur toutes les lèvres des personnes fortunées que j'ai rencontrées durant mon enquête. Si cette évolution lexicale traduit certaines mutations contemporaines de ces services, elle masque la persistance d'une domesticité plurielle à temps plein chez les plus riches. Utiliser ce mot ne relève donc ni d'un anachronisme, ni d'une méconnaissance des combats des employés de maison à travers le monde pour la reconnaissance de leur statut de travailleuse. C'est le seul moyen de rendre visible ce qui contribue à les laisser dans l'ombre. Le travail à domicile et toutes les tâches qui incombent à l'entretien du domus, le foyer en latin, d'où dérive le mot domestique, et des corps qui s'y trouvent. Les domestiques que j'ai rencontrés sont majoritairement des femmes. Elles sont polyvalentes ou sont spécialisées comme gouvernantes, femmes de chambre, cuisinières, nannies, lingères. Parmi ces femmes, nombreuses sont celles qui ont entre 1 et 3 enfants, la moitié d'entre elles sont mariées, les autres sont célibataires ou en union libre. Elles servent aussi aux côtés d'hommes qui occupent des fonctions de majordome, de valet, de chef cuisinier, de chauffeur. Ces hommes sont souvent sans enfants ou en ont un, et un peu plus de la moitié d'entre eux sont célibataires. Chez les riches, les domestiques travaillent à temps plein, au moins 8 à 10 heures par jour, souvent bien plus, pour prendre en charge aussi bien les tâches domestiques que d'autres aspects de la vie familiale, sollicités à chaque instant pour répondre à tous les désirs, ou presque. À quelques exceptions près, elles dorment chez leurs employeurs ou à proximité, dans les mêmes immeubles, domaines, quartiers, villes. Embauchées à temps plein, seules ou à plusieurs dans un même foyer, elles sont quelques milliers en France. S'il est impossible de les dénombrer précisément, elles ne sont pas toujours déclarées, ou seulement à moitié, ou alors sous des intitulés qui ne permettent pas de les identifier clairement. Elles relèvent d'un secteur d'emploi qui a toutes les caractéristiques d'une niche, avec ses propres agences de placement et ses formations de luxe, exclusivement réservées aux ménages les plus privilégiés. Ces ménages se composent de femmes et d'hommes, vivant pour la plupart en couple hétérosexuel, souvent parents, qui chaque jour se font servir par d'autres, chez eux, du matin au soir, parfois la nuit. Les femmes donnent les consignes domestiques, leurs époux les rémunèrent. À peine levées, ces patrons trouvent leur petit déjeuner soigneusement préparé, leurs vêtements pliés sur la chaise, leurs enfants coiffés et prêts à être conduits à l'école par leur nanny, ou encore mieux, leur chauffeur. Le soir, quand ils rentrent du bureau, de la salle de sport, du spa ou d'une cérémonie inaugurale, ils peuvent se lever dans leur sofa, plonger dans leur bain chaud ou s'enrouler dans leur couette en jouissant de la quiétude d'une maison toujours propre, rangée, parfumée, d'un frigo plein et d'enfants profondément endormis.